Morning Edition from NPR News.
Let's see his unbeatable house. Javier,
me radio
France Inter. Le 18-20.
Et c'est en Inde que nous sommes ce soir. L'Inde, qui il y a quelques semaines, appelle nous donner d'elle des images terribles. Une vague Covid sans précédent, des gens souffrant de manque d'oxygène. Une vague qui laissera d'ailleurs au pays ce nom de variant indien devenu désormais Delta. Où en sommes-nous aujourd'hui? On déconfine doucement à Delhi, à Bombay notamment. Est-ce que ça va réellement mieux? C'est ce qu'on verra dans un instant. Le bruit du monde est de retour en Iran après l'élection d'Ebrahim Raisi et les espoirs quand même des Iraniens de voir les sanctions au moins allégées. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Anaïs Feuga a trouvé plein d'argent en bitcoin au Salvador, dans une mine d'or au Cambodge et dans la démission du Premier ministre en Suède. 18h50, passons genre dans le monde de Julia Foyce qui vous parlera de la reine des Pays-Bas qui ne veut pas de son indemnité annuelle et qui reviendra aussi sur l'UEFA qui ne veut pas des couleurs LGBT. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et le pari de l'apaisement avec la Catalogne du gouvernement espagnol. Il enterre l'âge de guerre en ouvrant les prisons. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Jaffrelot.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CERI. Vous avez notamment écrit L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. C'est publié chez Fayard. Ça date de 2019, mais ça tient toujours parfaitement la route. On a beau l'appeler Delta, le fameux variant indien porte ce nom parce que c'est de là qu'il vient. Il a fait des ravages épouvantables en Inde. Ce pays est devenu en quelque sorte une sorte de témoin du virus plus fort que l'homme et aussi d'une gestion d'ailleurs pas toujours claire. On va y revenir. Le bilan, il est de 380 000 morts, 29 000 millions de contaminés. D'abord, Christophe Jaffrelot, est-ce qu'on se fie vraiment à ce bilan? Il y a des voix qui disent qu'on a même dépassé le million, ce qui est considérable, colossal.
Oui, on a des voix qui vont même au-delà. En fait,
au-delà du million?
Oui, les statistiques indiennes sont devenues très peu fiables. Mm-hmm. Alors ça vaut pour la pandémie, ça vaut pour presque tout aujourd'hui, mm-hmm. En vérité. C'était un pays qui avait une très belle tradition statistique, introduite par les Anglais d'ailleurs, le recensement décennal. C'est les Britanniques qui l'ont introduit. Et là, on est effectivement tous, autant qu'on est, chercheurs, spécialistes, enfin, épidémiologistes, mm-hmm. à remettre ces chiffres en cause. Parce que tout simplement, lorsque l'on regarde les taux de mortalité, mm-hmm. lorsque l'on regarde tout simplement les crématoriums, mm-hmm. Voire les rivières où les corps ont été jetés, on a un ratio qui peut aller de 1 à 4 à 5. Certains disent 10. Alors si c'est 10, mm-hmm. ça veut dire qu'il y a eu 4 millions de morts en vérité. Mm-hmm. Mais on ne saura jamais. Enfin, sauf s'il y a un recensement qui nous permet de corriger la pyramide des âges et de voir où sont les trous en quelque mm-hmm. sorte. Hein. Ça, ce sera la seule façon rétrospectivement de faire le vrai bilan humain de cette pandémie qui nous ramène en vérité à la grippe espagnole. Hein. L'Inde avait été la plus touchée de toutes les nations du monde par la grippe espagnole il y a un siècle. Eh bien, elle est à nouveau, sans doute, celle qui aura été le plus touchée par cette pandémie.
Avant de voir où nous en sommes aujourd'hui, moi je m'interroge, est-ce que c'est parce que la gestion de la pandémie a été finalement assez erratique? On a vu un Modi qui était capable de nous parler de yoga, enfin sa grande spécialité, et en même temps on sait que c'est un pays qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement peuplé, où il y a une très grande promiscuité, puisqu'il y a aussi une très grande pauvreté. Est-ce qu'on sait la part de Modi et la part, c'est terrible à dire comme ça, de fatalité dans un pays fait comme il est, en fait?
Il n'y a pas de fatalité, mais il y a effectivement des comportements sociaux qui ne sont pas propices, des structures sociales, les bidonvilles, tous ces lieux où effectivement on n'a pas un mètre carré pour soi. Ça, c'est un facteur aggravant, évidemment. Mais on ne peut pas dédouaner l'État de cette affaire. Et Modi, son gouvernement, ont considéré au début de l'année, il y a 6 mois, que la bataille était gagnée. Oui. Ils ont fanfaronné, il a littéralement fanfaronné à Davos, disant qu'il allait aider le monde entier à gagner ce que lui, il avait déjà réussi à gagner comme victoire. Et donc, ils ont pris beaucoup de retard. Alors, ce retard, il s'est traduit par des politiques publiques très néfastes, permettant notamment des grands rassemblements religieux, permettant aussi des élections.
Exactement, il y a eu une grosse campagne pendant cette période.
Dans 4 États très peuplés, dont le Bengale occidental. Et puis, et ça on va le payer maintenant en Inde, on n'a pas lancé les commandes de vaccins qu'il fallait. Et donc là, vous avez... c'est un laboratoire du national-populisme. Hein, ce nationalisme qui fait que on se sent plus fort que tout. Et puis ce populisme qui frise la démagogie, pour pas dire plus, Et qui va de pair aussi avec un anti-scientisme, c'est-à-dire le refus de l'expertise, le refus de ceux qui disaient, parmi les médecins, parmi les spécialistes, la deuxième vague arrive, hein, on était en février, on savait qu'elle était là, et on n'a rien fait pendant un mois. Au contraire, on a continué à promouvoir les remèdes traditionnels et on a promu d'ailleurs des hommes que les médecins ont traînés devant les tribunaux ensuite parce qu'ils faisaient fortune en vendant des remèdes de grand-mère.
Si on ouvre aujourd'hui, en tout cas à Delhi, à Bombay, enfin à peu près depuis le 14-15 juin, est-ce que c'est parce que oui, il y a eu une chute des chiffres et qu'on peut se permettre d'ouvrir ou est-ce que c'est parce qu'on a une image à montrer en dehors de l'Inde, donc on montre que les restaurants, les commerces sont ouverts ou est-ce que c'est simplement parce que l'économie est en train de chuter de telle manière qu'on se dit tant pis, on rouvre. C'est quoi la raison en fait ?
Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on la vague reflue dans les villes. Et ceci à cause du confinement, puisque de toute façon, c'est la seule façon d'y arriver rapidement, quand on n'a pas de vaccin. Donc, la vague reflue dans les villes. Et c'est vrai, l'économie a plongé. Et donc, on va sans doute rouvrir un peu trop vite. C'est ce que disent les experts. Parce qu'il faut relancer une machine économique qui est dans un état catastrophique. Ça, c'est pour les villes. La pandémie s'est répandue dans les campagnes, notamment parce que les travailleurs migrants sont rentrés dans leur village. Et ça, on ne sait pas ce qui s'y passe. On sait que dans les campagnes, la situation est parfois très très grave, au Bihar par exemple, mais on n'a pas de données très très précises. Et là, pour le coup, on ne sait pas dans combien de temps on pourra véritablement considérer que la vague est derrière soi. Et surtout, c'est le plus inquiétant, on parle de la troisième vague déjà. Parce que avec un taux de vaccination aussi bas, on est à 4%.
3,6, j'allais dire, donc c'est encore oui.
Ben, voilà, ceux qui ont deux injections, voilà. En plus, faut bien le savoir, un des deux vaccins indiens n'a pas passé la phase 3, donc sa crédibilité n'est pas très grande, au point que on ne peut pas voyager quand on est vacciné par ce vaccin. L'Inde importe maintenant des vaccins Sputnik. C'est d'ailleurs l'ironie de toute cette affaire. L'Inde pharmacie du monde.
C'est ce que j'allais vous demander. Comment se fait-il que la pharmacie du monde n'ait pas pu vacciner sa propre population ?
On comptait sur elle pour au-delà. On comptait sur elle pour le projet COVAX, pour le programme COVAX des Nations Unies, pour vacciner l'Afrique. 2 milliards de doses devaient venir de l'Inde. Et donc là, vous avez, je pense, un effet induit de cette absence d'anticipation. Les laboratoires ne se mettent pas en ordre de marche s'ils n'ont pas de commandes. Et si l'État indien ne leur a pas donné de garantie en leur passant des commandes, eh bien, ils ont attendu. Et d'ailleurs, il y a eu un retour de bâton. L'un des patrons de ces laboratoires est exilé à Londres pour sa sécurité. On a là, je dirais, le underbelly de la politique indienne.
Le gouvernement a fait marche arrière aussi, a fait un virage à 90 degrés. Au-delà du yoga, effectivement, maintenant, Modi est capable de dire qu'il faut vacciner. Il a d'ailleurs pris en main la mise en place de la vaccination, au moins de 75% de cette vaccination. Est-ce qu'on peut imaginer, comme il le dit lui, qu'il y aura une vague de vaccination, qu'on a cette capacité, cette infrastructure pour vacciner massivement avant que la troisième vague, effectivement, ne vienne écraser le pays définitivement ?
C'est le grand point d'interrogation. C'est-à-dire qu'effectivement, après beaucoup d'atermoiements, au début, on a pensé que c'est les États, enfin plutôt Modi a dit que ce sont les États de l'Union indienne qui devaient vacciner, le faire d'ailleurs à des prix qui excluaient de la vaccination des centaines de millions d'Indiens, littéralement. Et puis il est revenu sur ce qui était effectivement une très mauvaise décision, c'est le pouvoir central qui va pouvoir acheter des vaccins en gros, et donc moins cher, et donc pour 75% d'entre eux, effectivement les rendre gratuits. Maintenant, est-ce que ces vaccins vont arriver suffisamment vite ? Est-ce que les centres de vaccination vont se multiplier suffisamment vite ? C'est un défi. L'Inde s'est vaccinée. Elle a vacciné toute sa population contre la polio avec des 10 millions de vaccinations par jour, il n'y a pas si longtemps. C'est un test pour la résistance de l'État indien. Est-ce que cet État est aussi bien organisé qu'il l'avait été ? Est-ce qu'il peut l'être à nouveau ? Ou est-ce qu'on est face à un État failli, en partie failli ? Et les tensions entre le centre et les États seraient un des facteurs d'affaiblissement de ce dispositif.
Lui, il dit 300 millions d'ici à la fin du mois d'août. C'est comme ça qu'il avance des chiffres. Moi, j'ai même autre chose à vous demander avant. C'est-à-dire, si de toute façon, et en attendant que la vaccination arrive à un taux suffisant pour lutter contre le variant, on n'y est vraiment pas, est-ce qu'on risque de se retrouver avec les mêmes problèmes d'oxygène, etc. Ou est-ce qu'au moins, on sait voir arriver la troisième vague si elle arrive ?
J'aimerais vous dire oui. On était déjà très surpris que la deuxième vague se heurte à ce problème d'oxygène. Parce que, Dieu sait si on avait déjà vu, lors de la première, qu'il était nécessaire de monter en gamme. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas le dire au jour d'aujourd'hui. Simplement, on a le sentiment que la société, elle, s'est prise en main et que c'est la grande nouveauté, en quelque sorte, une société qui se gère, en quelque sorte, beaucoup plus de façon autonome, n'attendant plus de l'État grand-chose. Et ça, ça peut aider face à une troisième vague.
Alors, en attendant plus grand-chose de l'État, mais dans un état de traumatisme énorme, on peut imaginer jusqu'à quel point, parce que les images qu'on a vues à la télé, qui nous ont terrassés, nous aussi, ont été incroyablement traumatiques, évidemment, pour les Indiens, qui ont l'impression parfois d'avoir survécu à une guerre. C'est ce que nous raconte Sébastien Farcy dans ce reportage. Écoutez.
Taoqir Hussain est journaliste à New Delhi. Au plus fort de la crise du Covid, il se rendait dans les hôpitaux débordés pendant la journée et le soir, il aidait ses proches malades à trouver un lit. Puis un jour, il apprend qu'un ami âgé de 34 ans est mort du Covid car il ne pouvait trouver d'oxygène. C'est là le début d'une descente aux enfers.
J'ai senti mon cœur s'arrêter de battre et à partir de là, j'ai commencé à avoir des crises de panique. Ça ressemblait à des crises cardiaques et revenait dès que je devais écrire sur le Covid. Cela a été causé par mon sentiment d'impuissance face à cette crise et par une peur profonde de mourir.
Taoqir vient pourtant de la région tourmentée du Cachemire. Il a grandi pendant la guerre civile et a couvert le conflit en tant que journaliste. Il a donc déjà côtoyé la mort. Mais cette crise du Covid a été pour lui bien plus violente.
J'ai déjà vu des gens mourir, se faire abattre devant mes yeux. Mais cela ne m'a jamais perturbé. Car pendant un conflit, vous pouvez vous protéger des balles derrière un mur. Mais quand une personne manque d'oxygène, vous ne pouvez vraiment rien faire. Et vous ne savez pas qui sera la prochaine personne à mourir.
Les personnes guéries du Covid doivent aussi lutter maintenant contre ce genre de troubles psychologiques. C'est le cas d'Anshuma Chetrapal, qui a souffert d'une forme grave du coronavirus.
Cette maladie n'a pas de protocole de soins clair. Donc les médecins ont tout essayé sur moi, ce qui m'a donné l'impression d'être un cobaye. Je ne me sentais plus en sécurité et j'ai perdu confiance dans le système. Cela s'est calmé. Mais maintenant, je me sens coupable de ne pas avoir aidé les gens qui avaient besoin de moi quand j'étais malade.
Ancien malade, proche de défunt ou simple résident effrayé, une grande partie de la population indienne subit donc maintenant le contre-coup psychologique de cette hécatombe. C'est ce que constate Shrija Day, psychologue à New Delhi.
En ce moment, chaque semaine, je reçois 5 nouveaux patients affectés par un burn-out émotionnel. Les raisons sont diverses, mais les symptômes sont des angoisses, de la léthargie, une baisse de la concentration et de la motivation.
L'Inde manque cruellement de psychologues pour faire face. Donc pour compenser, l'Institut médical Nimans a lancé un numéro d'appel gratuit qui offre un soutien psychologique d'urgence pendant la pandémie. En 15 mois, plus de 500 000 personnes y ont eu recours.
Sébastien Farcy pour le reportage. Merci beaucoup. Christophe Jaffrelot, la conséquence de cette vague vraiment terrorisante pour l'Inde, c'est ça. Mais ça veut dire aussi des emplois qu'on perd, ça veut dire des commerces fermés, ça veut dire tout ça. À combien on évalue le bond en arrière qu'a fait l'Inde pendant cette période?
Alors si on prend un critère qui est le nombre de personnes retombées dans la pauvreté, on est retourné une quinzaine d'années en arrière, hein, puisque l'Inde avait réussi à sortir de la pauvreté 250 millions de personnes sous le gouvernement précédent de 2004 à 2015. Et là, on a des estimations qui nous disent que sont revenus dans cette partie de la population qui est sous le seuil de pauvreté un nombre équivalent. Alors, ça, c'est les pauvres. Mais ce que nous dit le reportage que vous venez de diffuser, c'est que la classe moyenne a été touchée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. La première vague, c'était, rappelez-vous, les travailleurs migrants jetés sur les routes, retournant dans leur village. Et la classe moyenne était à l'abri. Elle avait son confinement, elle y vivait dans ces colonies, huppées. Là, c'est eux qui ont aussi été frappés. Et donc, ce sont des histoires inouïe d'anciens ambassadeurs mourant sur l'hôpital, sur le parking d'un hôpital, ou des quantités de personnes de la haute société, littéralement, de la bourgeoisie en tout cas, qui n'arrivaient pas à trouver l'oxygène parce qu'il fallait arriver à l'hôpital avec sa bonbonne d'oxygène, et puis après le lit dans l'hôpital en question. Donc c'est tout le dispositif de santé qui a été mis à mal, et toute la société qui a été frappée et donc effectivement traumatisée.
Dans nos sociétés occidentales, qui avons des filets de sécurité, qui avons des facilités, etc., nous avons aussi des plans de relance, tous à plus ou moins de degrés, mais enfin des plans de relance qui sont là, qui existent et qui permettent de faire repartir, y compris artificiellement, une économie. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Est-ce que ça existe en Inde, même un peu ou pas du tout? Comment on sort de là, quoi?
Ça a été minime, ça a été 1% du PIB, hein, c'est vraiment très très peu. Le déficit budgétaire de l'État est déjà à deux chiffres. Si on ajoute les États de l'Union indienne, on est certainement autour de 15%. Ça va être l'un des grands défis. Comment est-ce que l'Inde va pouvoir alimenter la relance? Et là, il n'y a que l'emprunt. Donc, il faudra sans doute un consortium, un club de Paris qui fera quelque chose pour ce pays, car sans cela, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut relancer la machine, sans compter qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens sont partis, que beaucoup de membres de l'élite indienne sont partis. Hein. Les charters qui allaient vers Londres, qui allaient vers Dubaï, étaient faits d'avions privés, mais ils étaient bien remplis. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir qui va investir.
Pour investir, il faut avoir confiance aussi dans la manière dont cela fonctionne, dont le gouvernement fonctionne. Qui a encore confiance dans ces grands investisseurs en Narendra Modi, en voyant la manière dont il a géré sa crise?
Vous retrouvez le syndrome populiste. On a eu l'épisode américain, rappelez-vous, Bolsonaro, Modi. Ça prouve que, quand même, savoir mener des politiques publiques et savoir gérer un État, ça ne s'invente pas. Et les professionnels à la politique, ils n'ont pas que des défauts. Ils ont aussi un savoir-faire.
Mais tout en gardant quand même une base, parce que vous citiez Trump, mais et c'est pareil de Bolsonaro et Modi aussi, il y a quand même ce noyau dur qui peut être assez important, qui tourne entre 20, 30%, peut-être plus en Inde même.
Ah, mais en Inde, il est au-delà.
Voilà, au-delà.
C'est tout à fait étonnant de voir qu'en fait, sa popularité est à peine entamée. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée, hein. Il incarne autre chose qu'un gouvernant. Il est un sage, il est un gourou, il parle comme cela aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a le look qui va avec maintenant, avec une barbe blanche qui s'allonge de jour en jour. Donc, c'est tout le défi du populiste que de réussir à ne pas être responsable de ses actes, de la gestion par le gouvernement. C'est les bureaucrates, c'est les politiques, c'est les opposants, c'est jamais lui. Et il gets away with it. Hein, il réussit à ne pas être effectivement soumis à la vindicte, ou en tout cas tout simplement à la responsabilité devant les électeurs, et l'opposition, en plus de cela, ça n'arrange rien.
N'existe pas pour l'instant.
Elle est divisée et elle est inefficace.
On ne leur souhaite pas une troisième vague aux Indiens, réellement, dans cet état-là. Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Avec plaisir.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, ça se passe en Iran. Retour en Iran après l'élection d'Ebrahim Raisi et les espoirs des Iraniens de voir les sanctions levées, même si Raisi, on le sait, n'a pas la réputation d'être facile avec l'Occident. Et la bande habituelle pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Anaïs Feuga.
Eh bien, on va parler de ce qui fait tourner le monde, enfin pas que, mais quand même, l'argent, bitcoin, mine d'or et gros sous.
Eh bien dites-moi, passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir et attention, Beyoncé, point.
Allez, on a trop hâte. Le monde d'après, Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir, buenas tardes ce soir, puisqu'on va causer de ce pari politique audacieux du gouvernement espagnol de gracier 9 leaders indépendantistes catalans.
A tout de suite, tout le monde, ne partait pas trop loin. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait escale avec Maxwell Farrington et le Super Omar, figurez-vous. We Us the Pharaohs, c'est dans la playlist d'Inter.
A vine grows in the jungle like a line flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath. It likes your cosmic space.
tree grows towards the sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email, thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the
Le bruit du monde ce soir est en Iran. Retour en Iran où, vous le savez, vendredi dernier a été élu un nouveau président. Il s'appelle Ebrahim Raisi. Il est ultra-conservateur, peu ouvert à l'Occident. Il prendra ses fonctions au mois d'août. Il aura pour mission de redresser l'économie iranienne durement frappée par les sanctions américaines depuis le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire. Des négociations indirectes sont en cours à Vienne entre l'Iran et les États-Unis pour lever ces sanctions. Elles suscitent beaucoup d'attentes en Iran. Et le reste, c'est Franck Madvon qui raconte avec Julien Gosset.
Le bazar de Tajrish, dans le nord de Téhéran, est fréquenté par les classes moyennes et supérieures. C'est un des quartiers les plus riches de la ville, un très bon baromètre de la crise économique. Ghazal fait quelques courses avec sa cousine. Elle vient d'une petite ville à 2 heures de la capitale. Comme tous les Iraniens, elle est victime de la forte hausse des prix.
Pour moi, la vie est très difficile. C'est déjà dur dans ma ville en province. Mais là, quand je viens à Téhéran, tout est très cher. Les prix peuvent augmenter du jour au lendemain et parfois la hausse est très importante. Nous sommes allés hier au bazar du sud de Téhéran avec ma cousine. L'an dernier, on avait acheté là-bas des t-shirts à 600 000 riyals. Cette fois, les mêmes t-shirts coûtent 1 300 000 riyals.
Cette inflation est provoquée par les sanctions américaines, rétablies à partir de 2018. L'Iran vend moins de pétrole, les transactions avec les banques étrangères sont devenues très compliquées et le rial s'est effondré. Mehdi Sabri tient une boutique de maroquinerie. Il a de moins en moins de clients et attend beaucoup des négociations à Vienne entre l'Iran et les États-Unis.
À cause des sanctions, on ne peut ni importer ni exporter. On a du mal à produire, on ne vend rien. Pour fabriquer des produits ici, on a besoin de matières premières venues d'ailleurs. Et à cause des sanctions, nous n'y avons pas accès. On veut que les États-Unis lèvent ces sanctions, parce que c'est la population iranienne qui en est victime, pas le gouvernement. Le gouvernement, lui, n'est pas du tout affecté. C'est nous, les citoyens, qui sommes touchés par ces sanctions au quotidien.
En retirant les États-Unis de l'accord sur le nucléaire, Donald Trump a facilité la tâche de la frange dure iranienne, qui voyait d'un mauvais œil ce pacte de 2015, voulu par le président modéré Hassan Rouhani. L'Iran aurait fait trop de concessions, c'est une des raisons pour lesquelles le système a tout mis en œuvre pour que l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi devienne président. Mais son élection ne devrait pas changer la nature des discussions à Vienne. Baki Manesh, fondateur du cabinet d'avocats d'affaires Ferdowsi à Téhéran, se montre optimiste.
Les discussions, nous le pensons très fortement, aboutiront. Les Iraniens espèrent un retour total des Américains et on a l'impression que ça va être non, plutôt quelque chose de progressif, un peu à l'image du retour des sanctions Trump, puisque ça s'est fait de manière progressive sur un peu plus de 6 mois. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il est clair que du côté iranien, il y avait un accord, il a été violé par une partie et cette partie souhaite revenir, eh bien elle n'a qu'à revenir. Donc pour les Iraniens, il sera plus difficile de donner des signes positifs. Eux, ils disent, nous on est capable de retourner la situation sur les recherches nucléaire en quelques semaines, quelques mois. Il me semble que c'est plus aux États-Unis de faire un peu plus.
L'Iran veut donc sortir la tête haute des négociations. Massoumeh Ebtekar fait partie du gouvernement iranien. Elle est vice-présidente chargée des affaires familiales. Pour elle, la nouvelle administration américaine aurait même dû agir plus tôt.
Our expectation was that Mr. Biden would have immediately taken.
On s'attendait à ce que M. Biden lève immédiatement après son élection les sanctions illégales et inhumaines qui frappent l'Iran. Ça ne devrait pas prendre autant de temps. Je crois qu'au fond, les États-Unis ont pris conscience que leur politique de pression maximale est inutile. Elle conduit l'Iran à plus de progrès en termes de technologie nucléaire, de politique de défense. Donc je m'attends à ce que ces négociations donnent un résultat positif le plus vite possible et que ces terribles sanctions contre le peuple iranien soient levées pour que notre pays soit autorisé à fonctionner comme tous les autres membres de la communauté internationale.
La levée des sanctions semble dans l'intérêt de toutes les parties, réduire la menace nucléaire côté occidental, redresser l'économie côté iranien. Beaucoup d'entreprises se positionnent déjà pour être en première ligne quand le marché iranien s'ouvrira à nouveau.
Franck Madvon avec Fabien Gosset. Fabien, pardon pour cette inversion de prénom. Franck et Fabien, merci beaucoup à vous deux. Le bruit du monde, la suite, c'est tout ce qui est passé sous les radars, rattrapé au vol par Anaïs Feugin. Et dites-moi, on va parler gros sous, Anaïs. Ce soir, on commence avec les Salvadoriens, dont on sait déjà qu'ils sont amateurs de Bitcoin et qui commencent à être un peu inquiets de cette volatilité.
Mais oui, ici dans les rues du centre historique de San Salvador, le Bitcoin, c'est encore très abstrait. Alors, on en a parlé ici, hein. Depuis le 9 juin, les Salvadoriens peuvent utiliser cette monnaie virtuelle. L'idée, c'est d'arrêter de perdre des millions de dollars en taux de change. Le Salvador, c'est ce pays d'Amérique latine qui perçoit le plus gros volume d'argent de sa diaspora, qui vit en majorité aux États-Unis. Cet argent qui vient de l'extérieur, c'est 24% du PIB. Alors, où en est-on aujourd'hui, après l'enthousiasme du début, bien un peu dubitatif, les Salvadoriens, à cause de la volatilité du Bitcoin. Il vient de plonger aujourd'hui sous les 30 000 dollars pour la première fois depuis janvier, à cause de la Chine, première productrice mondiale, et qui vient d'interdire le mining. Le mining de crypto-monnaies dans certaines régions. Là, c'est comme ça qu'on les fabrique, hein, les bitcoins.
D'accord.
La Chambre de commerce et d'industrie du Salvador vient de publier une étude. 96% des hommes d'affaires du pays préfèrent que l'utilisation du bitcoin soit facultative et 93% des salariés préfèrent qu'on les paye en dollars. Chez les vendeurs de rue comme cette femme qui vend des chapeaux dans le centre de San Salvador, inutile de dire qu'elle voit le bitcoin d'un mauvais œil. Et comment les gens vont acheter chez moi si je ne peux pas utiliser le bitcoin? On dit qu'on n'utilisera plus d'argent liquide. Ça va nous affecter et tous les vendeurs disent la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine dernière, la Banque mondiale a refusé de soutenir le Salvador qui voudrait utiliser le bitcoin comme devise légale pour toutes les transactions. Grande prudence aussi du FMI, sans compter la dimension environnementale du bitcoin. Et là, on ne parle plus du Salvador, mais de Tesla qui n'acceptera les paiements en crypto-monnaie que lorsqu'elle sera devenue moins polluante.
185 millions de dollars par an maintenant, c'est le prix de l'or au Cambodge.
Oui, le pays a débuté hier l'exploitation de sa première mine d'or. C'est un vrai serpent de mer. Le projet était dans les cartons depuis 14 ans. L'entreprise australienne Emerald Resources a reçu une licence exclusive. Et l'agence de presse cambodgienne communique sur cette grande réalisation, comme l'appelle le Premier ministre au pouvoir depuis 36 ans. Dans ce petit spot diffusé sur les réseaux sociaux, hein, belle musique martiale, on apprend que la mine doit produire 3 tonnes d'or pur par an pendant 8 ans. Le gouvernement cambodgien espère recevoir des revenus fiscaux de 40 millions de dollars par an. On voit encore sur ce diaporama des installations minières, des convoyeurs, des camions, des terrassements importants. Parce que pour ces mines, il a fallu tailler dans la forêt verdoyante, dans la région de Mondulkiri. La population locale s'inquiète de l'impact du projet sur l'environnement. Elle accuse le pouvoir de soutenir des projets qui servent en fait de couverture à une déforestation massive.
En Suède, Anaïs, pour terminer, une première dans l'histoire politique du pays, le Premier ministre a été renversé par un vote de défiance.
Oui, le social-démocrate Stefan Löfven. Toutes les voix de l'ex-parti communiste se sont jointes à celles de la droite et de l'extrême droite hier au Parlement. Et donc, surprise, la censure a été votée. Et c'est ce qu'annonce le président du Parlement suédois, Andreas Norlén. Voilà, d'abord un gros coup de marteau. Le vote a été de 181 pour, 109 contre et 51 abstentions.
Je constate que la Chambre approuve le vote de défiance à l'encontre du Premier ministre. Et recoup de marteau. Hein. Voilà. C'est même un gros coup de tonnerre pour le Premier ministre, premier chef d'un gouvernement renversé. Il n'y a que 11 votes de défiance dans l'histoire politique suédoise, tous infructueux. Alors, quel rapport avec les gros sous dont on parle depuis le début? Ce qui fait tomber le gouvernement, c'est un projet de réforme des loyers encadrés, un pilier du modèle social suédois. En Suède, les loyers sont négociés entre l'association qui représente 3 millions de locataires et les propriétaires. La coalition au pouvoir voulait libéraliser les loyers pour les logements neufs, réforme avec un pacte minime, a prévenu le gouvernement. Mais la ligne rouge a été franchie pour le parti de gauche, qui chiffre la hausse des loyers à plus de 3 milliards d'euros à l'État en allocation logement. En tout cas, pour l'instant, en Suède, le Premier ministre a une semaine pour décider, soit il démissionne, soit il convoque de nouvelles élections.
À suivre, merci beaucoup. Anaïs Feuga, sous les radars tous les soirs dans Un jour dans le monde. Vous partez avec Bob Dylan, dites-moi, vous avez de la chance. Knocking on Heaven's Door sur France Inter.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bob Dylan et Knocking on Heaven's Door sur France Inter. Julia Foyce, elle ne frappe pas avant d'entrer, elle défonce la porte.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence cette semaine par le chiffre astronomique de la semaine.
190 millions, c'est le nombre de femmes atteintes d'endométriose dans le monde, selon l'OMS, soit une femme sur 10. Fabienne, en fait, le chiffre est au moins aussi surprenant par son ampleur que par son existence même. Cette maladie qui touche l'endomètre, l'utérus, donc, rend les règles extrêmement douloureuses plusieurs jours par mois, ce sur plusieurs décennies. Elle affecte la sexualité, altère la fertilité. Pour autant, on la connaît très peu, faute de s'en préoccuper vraiment. Elle vient tout juste, par exemple, d'intégrer les programmes de médecine chez nous en France, et c'est à peu près le même constat partout. Les règles, c'est pas un sujet que les femmes aient mal, eh ben c'est normal. Résultat, il faut en moyenne 7 ans pour établir un diagnostic. Pire, on n'a toujours pas de traitement digne de ce nom. Mais peut-être, je dis bien peut-être que ça va enfin bouger. Ce rapport de l'OMS témoigne d'un intérêt nouveau de la communauté scientifique pour le sujet. Et ça, c'est grâce au mouvement féministe d'aujourd'hui, cette fameuse troisième vague qui touche enfin le corps dont on se dit qu'il est en fait politique. Dans le monde entier, les femmes veulent se le réapproprier. Ça passe aussi par la question des règles, avec notamment ce concept de précarité menstruelle, soit le difficile accès à une protection hygiénique de base. Je vous en parle souvent ici, je vais vous en reparler ce soir.
Et grâce notamment à un étudiant indien.
Il s'appelle Soban Mukherjee, il vit à Calcutta dans le nord-est de l'Inde, pays où le sujet des règles est toujours très tabou. Il a 19 ans quand il apprend qu'une amie à lui ne peut plus ni aller à l'école ni sortir dans la rue, faute de pouvoir s'acheter des serviettes hygiéniques. Qu'à cela ne tienne, il négocie des prix de gros avec des fabricants pour pouvoir les vendre 5 roupies, soit 5 centimes d'euros l'unité. Il construit de ses mains un distributeur en bois, installe le premier prototype dans des toilettes publiques et s'apprend. Des élus locaux s'y intéressent. 5 ans plus tard, on trouve 70 de ces distributeurs dans la ville de Calcutta. Soban, lui, a fait la une du Times of India.
Et c'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'époque ou pas, Julia.
Au moment où Megan Rapinoe, star du foot américain et figure de la lutte LGBT, devient l'égérie de la marque de lingerie Victoria's Secret. Au moment où le football connaît ses premiers coming out, dernier en date, celui de Carl Nassib, star des Raiders de Las Vegas, pardon, il y a quelques jours sur Instagram. Et donc au moment où le milieu du ballon rond semble enfin s'ouvrir à plus de diversité, eh ben non, l'UEFA vient de dire non à Munich. La ville avait demandé l'autorisation d'illuminer son stade aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, drapeau LGBT. Demain soir pour la rencontre Allemagne-Hongrie. L'idée était de marquer un soutien clair et net à la population hongroise après le vote de cette loi. Il sera désormais interdit en Hongrie d'évoquer l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité dans un lieu où potentiellement pourraient se trouver des mineurs, autant dire partout. Ce vote a provoqué l'émoi un peu partout en Europe et donc jusqu'à Munich. Mais non, pas de stade arc-en-ciel demain. Et pourquoi ? Au nom du principe de neutralité, a rappelé l'UEFA. Moi, vous m'expliquerez comment on peut être neutre face au racisme, face au sexisme ou face à l'homophobie. Vous avez 2 heures, Fabienne. En attendant, Munich vient de décider que plusieurs bâtiments publics auront tout de même des couleurs LGBT. Et tant pis pour le stade.
Et on termine en musique, Julia.
Oui, parce qu'on vient de l'apprendre avec cette vaste enquête menée par l'Université de Californie dans l'industrie musicale américaine. Labels, radio, chanteurs, musiciens, bref, tout secteur confondu. À des postes de dirigeants, les hommes blancs sont 18 fois plus nombreux que les femmes noires. 18 fois. Eh bien, ceci. On rappellera que c'est une femme noire qui a été nommée artiste la plus influente du siècle par le New Yorker, une chanteuse noire qui a vendu 185 millions d'albums dans le monde. Alors on se fait plaisir aujourd'hui, Fabienne, Beyoncé, s'il vous plaît.
Boom.
Et on s'excuse auprès de Beyoncé, mais on va la couper assez brutalement. Julia, on vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, le gouvernement espagnol a décidé ce matin de gracier 9 dirigeants indépendantistes catalans. C'est un arbitrage audacieux sur un dossier, la Catalogne, qui empoisonne la vie politique espagnole. Pour vous, ce pari politique peut évidemment échouer, mais il a le mérite d'exister. C'est votre Monde d'après.
Ça s'appelle prendre un risque, poser un acte fort. Il n'est qu'à voir la virulence des réactions en Espagne, où le sujet fait la une de toute la presse. Et pour cause, la Catalogne est le sujet de controverse par excellence chez nos voisins depuis le référendum d'hommes d'autodétermination en 2017. La tentation sécessionniste et les violences qui l'avaient accompagné avaient conduit en 2019 à la condamnation pour sédition de 9 leaders catalans à des peines de prison ferme de 9 à 13 ans d'incarcération. Ces mêmes condamnations font donc aujourd'hui l'objet d'une grâce de la part du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Les 9 personnes concernées, notamment Oriol Junqueras, qui est la figure emblématique ou l'une des figures emblématiques, ne sont pas définitivement amnistiées, elles restent inéligibles, mais elles vont retrouver la liberté très rapidement. Peut-être dans les heures qui viennent. C'est un symbole majeur de réconciliation. Pedro Sanchez y voit l'occasion de retrouvailles nationales avec la Catalogne pour en finir avec les divisions et ouvrir un nouveau dialogue. Cette main tendue, elle a aussi le mérite de priver les indépendantistes d'un argument facile. Libérer d'abord nos dirigeants, on verra ensuite. Et c'est un acte courageux parce que plus de 50% des Espagnols étaient opposés à cette grâce.
Et ce pari peut quand même, Jean-Marc, échouer sur toute la ligne.
Bah oui, parce que justement, l'opposition est vive des deux côtés, en fait, de l'échiquier politique. D'abord, toute la droite espagnole, du centre droit jusqu'à l'extrême droite, est vent debout contre cette mesure de grâce. Elle y voit un acte de trahison vis-à-vis de l'unité espagnole. Et le 13 juin dernier, elle a d'ailleurs mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid contre ce qui n'était alors qu'un projet. La mobilisation est d'autant plus forte que les indépendantistes incarcérés n'ont jamais exprimé de regrets, encore moins d'excuses. Cela dit, la droite espagnole oublie un peu vite qu'elle a, elle aussi, par le passé, pratiqué la grâce ou l'amnistie, par exemple à la fin des années 90, au bénéfice des dirigeants des GAL, vous savez, ces groupes paramilitaires qui luttaient contre le terrorisme de l'ETA en pratiquant eux-mêmes le terrorisme. L'opposition à la décision de Pedro Sanchez vient aussi de l'autre camp. Les indépendantistes catalans les plus radicaux voient dans cette grâce à la fois une mesure insuffisante, puisque l'amnistie n'est pas totale, et un geste de diversion, une manœuvre politicienne qui ne règle rien au fond du dossier, celui de l'avenir de la Catalogne. Le plus critique est évidemment l'autre leader emblématique de la cause catalane, Carles Puigdemont. Mm-hmm. Il n'est pas concerné par la grâce puisqu'il a fui en Belgique pour éviter la prison. Soit dit en passant, là aussi, c'est un peu facile de critiquer alors qu'on a plié bagage.
Alors, en même temps, le fait est que ça ne règle rien du dossier de fond.
Oui, c'est vrai, mais ça donne quand même une petite chance de renouer le fil du dialogue, d'autant que le nouveau président régional de Catalogne, Pere Aragonès, est plus enclin à la négociation avec Madrid que son prédécesseur. Il ne réclame pas une indépendance unilatérale. Et puis les 9 dirigeants graciés vont peut-être faire le choix d'une attitude plus constructive. Mais en réalité, le pari de Pedro Sanchez est peut-être ailleurs. Le Premier ministre espagnol ne se fait sans doute pas d'illusions. Il ne va pas régler d'un coup de baguette magique un dossier aussi épineux que la question catalane. Ça prendra beaucoup de temps, ça sera compliqué. Non, en prenant cette décision, Pedro Sanchez fait surtout d'une pierre 3 autres coups, sans lien direct, on va dire, avec Barcelone et la Catalogne. Un, il renvoie l'ascenseur en fait au parti catalan ERC, le parti de Pere Aragonès justement, qu'il a aidé à obtenir une majorité au Parlement espagnol. Deux, il marque un point auprès de ses voisins européens. Les grandes capitales européennes voient cette grâce d'un œil très favorable. Cet acte d'apaisement en plus tombe à pic au moment où les milliards du plan de relance européen post-Covid vont arriver à Madrid. On en parlait ici même hier. Enfin, trois, sur la scène politique espagnole, le risque est finalement limité. Les prochaines élections ne sont que dans 3 ans. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Et puis en cas d'échec en Catalogne, Pedro Sanchez pourra toujours se prévaloir d'avoir au moins tenté une réconciliation. Donc si on se résume, cette grâce est un acte suffisamment audacieux pour être salué, mais il n'est pas dénué non plus d'arrière-pensée tacticienne plutôt futée.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant le journal de Sébastien Power. Ne bougez pas.